à Moshe Rabbeinu et à Aaron Akohen. Donc la souk c'est marqué, Vaitzavem, il leur a donné les ordres, El Bnei Israël, concernant les Bnei Israël, Vel Paro Melech Mitzrayim, et concernant Paro, roi d'Égypte, le Hotzi et Bnei Israël, Meheret Mitzrayim, pour lui donner l'ordre de faire sortir les Bnei Israël de Eretz Mitzrayim. Rashi dit que, bien que, semble-t-il, du texte, on a l'impression que le contenu de ce qui doit être dit au Bnei Israël et le contenu de ce qui est dit à Paro, c'est le même du texte. Mais Rashi dit au Bnei Israël, à Moshe Rabbeinu, il a dit concernant les Bnei Israël, il faut diriger les Bnei Israël benachat, c'est-à-dire calmement, sereinement, et il faut les supporter, en français, pas en anglais, en français, parce qu'ils sont insupportables, il faudra les supporter quand même. Et quant à Paro, il faudra le respecter comme roi d'Égypte, et vous n'avez pas le droit de l'humilier, etc. Ça, c'est Rashi. Le Meshech Chochma, il dit quelque chose d'assez renversant, en fait. Il dit comme ça. Itachen, il se peut, Kigam Az de Mitzrayim, il se peut très bien que même à ce moment-là, en Égypte, Hayouk Dolea Uma Asherayou Sarim Nechbadim Vefratim, Vemayou Meshabdim et Bene Israël Lavadim. Boum. D'accord? Il dit, il y avait en Égypte des Juifs qui avaient une position dominante, c'était des princes, et qui eux-mêmes avaient des Juifs comme esclaves. Chez Marchou à Mitzrim, d'où ils avaient, les Égyptiens leur ont vendu des esclaves qu'ils avaient, qui étaient donc des Juifs, ils les ont vendus à d'autres Juifs qui étaient des princes et des gens qui eux n'étaient pas esclaves, et qui non seulement ils n'étaient pas esclaves, mais en plus ils avaient des frères, enfin leurs frères étaient leurs esclaves. Et Oulai, et peut-être, Ayou, Hema, peut-être que ces gens-là, qui avaient cette position dominante, Emayou, Ashlosha, Shvatim, peut-être que c'était les trois tribus, Reuven, Shimon et Lévi. Sheinigus Hara Bemitzraim, c'est peut-être eux qui étaient les chefs en Égypte, les chefs des Juifs. Comme on voit il y amène un midrash dans Parchat Nassau, où on dit que Lévi, Sheloya Beshiboud Mitzraim, ça c'est très connu, que Lévi n'avait pas été rendu esclave, on ne sait pas pourquoi en fait. D'accord? C'est pas Mapitom. On ne peut pas dire que, certains voudraient dire que Paro ne les a pas rendus esclaves de la même manière que Yosef n'avait pas pris les terrains des prêtres. Et comme les Lévites sont des prêtres, etc. Mais ce n'est pas vrai, à ce moment-là, d'abord, ils ne sont pas des prêtres. À ce moment-là, les prêtres, si on peut parler comme ça, c'est les prorotes, ce n'est pas les Lévites. Ils deviendront, les Lévites deviendront prêtres, si on peut parler comme ça, qu'à partir de Reta Egel. Donc, on ne sait pas. Mais la reine. L'onatal nachala baaretz, d'accord. Lui il dit comme ça. Hein? C'est le Meshech Chochma, c'est probablement un des pirushim les plus extraordinaires, en tout cas du siècle, enfin du siècle dernier, quoi. Lachen l'onatal nachala baaretz. Il dit pourquoi Lévi n'a pas eu de part de terrain en Israël, parce qu'il n'a pas été esclave en Égypte. Ren Reuven, lo natal, rak be'ever ha'yarden. Et Reuven, il a eu son territoire uniquement de l'autre côté du Jourdain. Ve Shimon, nitkayem alav, achalkem be'yakov. Et avec Shimon, Yaakov avait dit, je vais les saupoudrer dans tout le... Je dirais pas, les disperser dans tout Israël, comme le Ramban l'explique. Ou même Ayoub, Nechorin, Arbe, Vesarim. Est très possible que de ces trois tribus-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient libres et qui étaient même des princes. Ashayrayu meshabdim et Israël animkarim laem me'amemshala shel paro. il maintenait en esclavage les gens qui, leurs frères donc, qui leur avaient été vendus par le pouvoir, par Paro. Velachen siva Hashem idbarach shebnei Israël gam Paro yotziuet bnei Israël mi'ashibut. Ça veut dire que lui, il lit, il enlève la question qu'on avait. Quand vous lisez le verset, je vous relis le verset. Vaitzavem el bnei Israël vel Paro melech Mitzrayim lehotzi et bnei Israël me'eretz Mitzrayim. On a l'impression que utziva Hashem tziva aussi concernant les bnei Israël aussi lehotzi. D'accord ? Rashi dit autrement, mais Rashi, à la limite, on peut presque demander d'où Rashi sait qu'on peut lire autrement. C'est pas le pshat dans le verset. Dans le verset, on entend que les bnei Israël sont aussi concernés par ce qui est dit ici. Vous devez sortir les bnei Israël. D'après ça, ça voudrait dire, il dit que ça s'adresse aussi à ces juifs-là qui étaient en position dominante. Ou le kach samach leze yichus à Shlosher Shvatim. C'est pour ça que juste après ce verset-là, la Torah elle énumère les trois tribus avec leurs enfants, etc. Le Yichus, l'arbre généalogique des tribus. Et qui termine par Hu Aaron ou Moshe. D'accord? C'est Hu Aaron ou Moshe. Asher Amar Hashem Laem, Otsiou et Bene Israël, Meretz Mitzrayim, Al Tzivotam. Donc on a l'impression que Aaron et Moshe, c'est eux qui vont sortir les Bene Israël. Pourquoi? Parce que ceux qui sont cités juste avant avaient reçu l'ordre de les libérer. Shayou Kol Mishpacha Beshevet, Tseva Bifne Atzmo, Tseva Bifne Atzmo, chacun. Chaque chevet était une armée quasiment pour soi. Velo ishta abdu Israël zelazé. Mais on veut plus que les bnei Israël soient esclaves les uns des autres. Kanirei shelezé kiven haYerushalmi. Peut-être que c'est ça que pense le Yerushalmi dans Maseret Rosh Hashanah, où c'est marqué Vaitzavem el bnei Israël matzivam, demande le Yerushalmi. Al parshat Shiluach Avadim, il leur a donné des ordres concernant le fait qu'il faut libérer les esclaves. Et c'est pas évident, parce que là-bas on dit qu'il leur a donné la parshat de libérer les esclaves plus tard. Vadaou dirtiv, ko amar Hashem anochi, karati brit et avotechem. ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים למור, מקץ שבע שנים תשלחו איש את אחיו העברי, אשר ימאחר לך, דונק ואיתו סבירה סטון, etc. יפרה, ולא שמעו אבותיכם אליי, ווזן סט, ותן אופט, נמום פא יקוטה, ולא יטו את אוזנם, איזו פא פנשי לוראי פה מקוטה, זה יקרי דון פסוק, זה פסוק דון ירמיה. Donc, alors maintenant il dit, comment c'est possible? Il dit que Itachen Lomar, Bedata Midrash Naso, si on veut essayer de comprendre pourquoi le Midrash dit ce qu'il dit là, pourquoi ces trois tribus-là auraient eu un statut à part? Alors il dit, Leficha, Alpi de Amru be Mechilta, c'est dans la Mechilta il est dit, de Bishvil Arba Dvarim Nigalou, que les bnei Israël ont été libérés pour quatre raisons. Premièrement, Shiloshinu, ils n'ont pas changé leur nom. Le Shonan, ils n'ont pas changé leur langue. Et donc, Shelo Nerchedu Ala Arayot, Velo Ala Shonara. Vayu Mesuyanim Le Goy, Virziku Atzmam Le Geri. Mipne Shayu Metsapim Le Tchuat Hashem. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Yaakov, Birechotam, Ish, Kevirkato, Bechalukat Haaretz. Yaakov Avinu, il a béni chacun de ses enfants. Il a donné à chacun sa bracha, qui correspond à la portion d'Eretz Israël qu'ils allaient recevoir. Quand Moshe Rabbeinu va aussi, lui aussi, les bénir, et là aussi, ça aura à voir avec avec les portions de territoire, puisque Moshe Rabbeinu n'en donne aucun, il ne donne aucun territoire à Shimon. C'est Yehuda qui va donner une partie de son territoire à Shimon. Pour Moshe Rabbeinu, à cause de l'histoire de Zimri, Moshe Rabbeinu ne lui a pas donné de territoire du tout aux gens de Shimon. Et alors il dit, le Shloshet HaShvatim Alalu, ces trois tribus-là, Yaakov Rihkan, c'est eux, ils en ont pris plein la figure dans les brachot de Yaakov. Reuven, il l'a tout enlevé, Shimon, Lévi, Achim, assassin, d'accord, il n'y a rien à voir avec eux. Fait Ilou, écoutez bien, Ilou Hayou Meshubadim Kuchol Acheem, s'ils avaient été réduits en esclavage comme les autres, Hayou Mit Arvim Bemitzrim, ils se seraient assimilés. Ils auraient quitté le bateau. Vayou, Medamin, Shein Laim Chelek, Venachla, Beker, Israël, ils se seraient dit, bon, visiblement, tel que notre père nous a traités, on n'a pas de part au clan d'Israël, donc on devient égyptien. Le Fichar, Manaa, Ashgacha, Mishtabed, Otan, Bechomer, Bilveni. C'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas été réduits en esclavage. Alors, il y a toujours cette peur. Parce que, ça, on sait que la raison pour laquelle Yaakov Avinu n'a pas donné de brachot à ses enfants avant la fin de sa vie, vous vous souvenez, on avait dit, parce que, avec ce qu'il allait leur dire, pour certains d'entre eux, ils auraient été incapables de le croiser ensuite. Après qu'il ait dit ça, comment tu vas le croiser? Donc il a attendu un moment où ils n'allaient plus le croiser, donc à la fin de sa vie. Et Moshe Rabbeinu l'a pris modèle sur Yaakov Avinu, et lui aussi, qui allait dire certaines choses assez dures aussi, lui aussi il a attendu la fin de sa vie pour leur donner les brachot. Pourquoi? Parce qu'il y a cette crainte. C'est marqué dans Chazal que Yaakov Avinu, il avait peur que Reuven, il parte chez Esav. Après, ils allaient faire un club de ceux qui ont été lésés, des prorotes qui ont été lésés par Yaakov. Reuven, il est bechor, il a perdu à cause de Yaakov, et Esav, il est pror, il a perdu à cause de Yaakov. Donc Reuven, il va se retrouver des affinités avec Esav. Il a peur qu'il s'en aille, c'est ce qu'il dit ici. Il a peur que, bon, on n'a rien à voir, on ne reçoit pas, on n'est pas traité comme les autres, on va chez les Égyptiens, on va s'assimiler. Donc c'est tellement puissant que la Hashgacha, là-bas c'est Yaakov qui a peur, mais ici c'est la Hashgacha qui a fait qu'ils n'ont pas été Meshubadim. D'accord? Il n'explique pas, il dit c'est la Hashgacha qui a fait que c'était comme ça. Ça veut dire c'est, on ne sait pas pourquoi. Oui, il donne une raison, mais Stam, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ces trois-là, ils n'ont pas été, dans ces trois tribus, on n'a pas eu esclaves. De même qu'on ne sait pas. Je ne connais personne d'autre qui dise comme le chef Hochma. Et c'est assez étonnant parce que, bon, c'est probablement une ignorance de ma part, parce que c'est presque impossible que les gens n'aient pas critiqué leur préposition par rapport à ce chef Hochma. Il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts, il y a pas mal de gens qui ont écrit, etc., sur pas des gens qui sont aussi grands que lui, peut-être, mais même les gens qui sont venus après.
Le Meshech Chorma, il prend appui sur la Mechilta pour dire que c'est ces trois tribus-là.
Oui. Bon, mais la Mechilta, elle ne dit pas tout ça, elle ne dit pas tout ce qu'il dit. Ouais, et lui, bon, c'est son génie, c'est le Meshech Chorma, c'est pas monsieur tout le monde. Bon, là, c'est ce que je voulais ajouter à ce que je n'ai pas dit. Enfin, ce que j'ai dit la semaine dernière. Mais je pense que je n'ai jamais enseigné ça parce que moi-même, dans les années que je regarde le Meshech Chorma, je pense que j'ai dû regarder le début. Bon, il va dire la même chose que Rashi, j'ai sauté. Je n'ai pas lu ce qui était écrit. Je sais tout va. Alors maintenant, vous l'avez. Bien, alors il reste, on savait bien, il y a ce fameux remez que dans Beau, ça fait 2 et 1, bête et 1. Donc il reste 3 makot. Et alors, ça commence un peu, c'est assez étrange. De nouveau, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Boel Paro, donc tu vas chez Paro, parce que j'ai Ichbati et Libo, je l'ai rendu capable de résister, aussi lui et ses Abadav. Pourquoi? Parce que je veux déployer en quelque sorte mes signes, mes miracles au sein de l'Égypte. Et où le, ça c'est pour l'Égypte. Je veux faire une démonstration de ma toute-puissance, qui reste encore la toute-puissance à montrer, terminer de montrer que c'est des groupes de trois, ouais, il y a sur terre, sur mer et dans les airs. Et après, il y a la dixième qui est Makad Bechorot. Donc, il reste encore à montrer dans les airs. Terminé, quoi, parce qu'il y en a déjà une. Mais ensuite, il dit la chose suivante. « Ouleman te saper, ve'ozne vincha, ou ben vincha, et asher it alalti bemitzrayim, ve'et ototay asher samtivam, ve'idatem ki ani Hashem. » Ça veut dire... C'est comme ça. Nous, on a l'habitude que quand il y a un récit, les gens qui racontent leur guerre, ils racontent la guerre. Il y a eu la guerre et ils racontent la guerre. On n'a pas fait la guerre pour qu'ils la racontent. Tandis qu'ici, quand je vous dis clairement, je vais faire la guerre pour que vous le racontiez. C'est pas que c'est nécessaire pour mettre Paro, il est à genoux déjà. C'est terminé. D'accord, si Hachem ne lui donne pas l'énergie pour résister, il ne peut pas résister. Les makotes sont trop fortes. Il va céder. D'accord, Hachem décide, non, je ne veux pas qu'il cède tout de suite, parce que j'ai encore la fin de ma démonstration à faire. Bon, ça c'est pour l'Égypte. Pourquoi c'est tellement important que l'Égypte subisse toute cette démonstration? D'autant que l'Égypte, par la suite, ils vont être complètement cassés. La civilisation égyptienne, elle est finie, en tout cas cette dynastie-là, elle est finie parce qu'ils vont finir au fond de la mer. D'accord, toute la garde rapprochée de Pharaon va finir au fond de la mer. D'accord, et donc, bon, ça va s'effondrer, l'Égypte va s'effondrer. Alors peut-être, je me rappelle, je ne sais pas, ça dépend encore. Il y a eu des dynasties après, mais... J'ai vu que... On a trouvé très récemment, on a découvert en fait beaucoup de vestiges du royaume de Kouch. Tu racontais déjà, oui.
Non, vous avez dit Kouch.
Tu l'as vu, oui.
Juste comme ça.
Et ils ont trouvé que ce royaume de Kouch, il était plus grand que l'Égypte. Et ils ont aussi construit des pyramides, etc. Mais c'est une civilisation pour soi. C'est le Soudan, probablement. Soudan et puis l'Éthiopie, par là-bas. Et j'en parle parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu était, le Midrash dit que Moshe Rabbeinu était roi à Kouch. Vous savez bien, on a déjà parlé de ça, que Moshe Rabbeinu, dans son CV, il a un trou gigantesque. Il a quasiment 60 ans ou 50 ans de trou dans son CV. D'accord ? Parce qu'il est vraisemblablement sorti d'Égypte à 20 ans. D'accord ? 10 ans, on sait qu'il a fait, 10 ans dans un puits, jeté dans le puits par Yitro, sauvé par, nourri par Tsipora pendant 10 ans, à la barbe de son père. Donc ça fait 30. 40 ans dans le désert, ça fait 70.
20 ans couche.
Et il manque 50 ans pour aller jusqu'à 120 ans. C'est un trou, 50 ans. Alors le Midrash dit qu'il était roi à couche. Combien de temps il était roi à Kouch, je ne sais pas, je ne crois pas que le Midrash le dise. Mais on peut imaginer qu'il était une quarantaine d'années à Kouch, et puis les autres, c'est des temps de circulation, etc. Il était roi à Kouch, et c'est assez logique, d'après ce qu'on sait maintenant sur Kouch. Il y a eu à un moment donné, les gens de Kouch, ils étaient influencés, souvent dominés par l'Égypte, mais il y a eu un moment... à la 25e dynastie, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, où c'est Kouch qui a dominé l'Égypte, et il y a une tradition de, je crois, 3 ou 4 pharaons noirs, qui sont les gens de Kouch. Les gens de Kouch étaient noirs. Et bon, alors il y a, après on a un problème avec Aïcha Akushit chez Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il avait une femme de là-bas ou pas. En fait, en réalité, ce qui s'est passé, bon, ça ne répond pas à la question complètement, mais quand il s'est enfui, contrairement à ce qui est écrit dans le texte, on a l'impression qu'il allait directement chez Yitro, il est allé à Kouch. Il s'est enfui à Kouch parce que. Et comme il était un prince égyptien, il faut imaginer, il était quasiment le prince héritier. Donc il connaissait pendant toute la chokhma, toute la sagesse égyptienne. Il allait, semble-t-il, Paro, il n'avait qu'une seule fille. D'accord, c'est la fille de Paro, celle qui descend au fleuve. Et elle a adopté Moshe. Donc Moshe, il est prince héritier. Donc, on voit dans l'histoire du quand il s'est brûlé, etc., avec le charbon ardent et l'or. Et donc il a pris tout ça, et quand il s'en va, mais alors il est arrivé à Kouch, qui était le royaume voisin, et Kouch, le Midrash dit que Kouch était en guerre à ce moment-là, seulement ils n'arrivaient pas à gagner la guerre. Ça durait depuis longtemps, ils étaient plus forts, mais ils n'arrivaient pas à gagner. Moshe Rabbeinu serait arrivé et il aurait donné un conseil, et ils ont gagné la guerre. Et comme le roi de Kouch était très vieux, il a fini par mourir. Et donc, ils ont choisi Moshe comme roi. Seulement, il y avait une règle là-bas qui est que le nouveau roi, il doit épouser la veuve de l'ancien roi. Donc, Moshe devait épouser la veuve du roi précédent, ce qu'il a fait. Seulement, évidemment, il l'a épousée formellement, mais il ne l'a pas touchée. Et bon, elle s'est tue pendant des années. Et au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, elle l'a dénoncé. Et c'est pour ça qu'il a dû fuir de Kouch aussi. Il a été dégommé comme roi, il a dû fuir aussi Kouch. À ce moment-là, il est allé chez Yitro, et curieusement, il a raconté à Yitro qui il était. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, parce que quand il est arrivé chez Yitro, il a encore des habits égyptiens. Mais c'est possible, puisque les filles, elles disent, c'est un Égyptien qui nous a sauvés. Hachem, il fait des reproches à Moshe, d'avoir laissé dire qu'il était égyptien. Il aurait dû dire qu'il n'en était pas un. Et donc, s'il vient de Kouch, c'est possible que Kouch et Mitzrayim avaient les mêmes habits. Il avait les habits princiers aussi, si ça se trouve, il est parti. Alors, quand il est arrivé chez Yitro, Yitro lui a demandé qui il était, etc. Alors, il a dit qui il était, et il a raconté toute l'histoire. Comme il a raconté qu'il avait tué un Égyptien, Yitro, il a quand même des réactions d'Égyptien. T'as tué un Égyptien ? Il l'a fichu dans un trou. C'est-à-dire, il l'a mis à crever. Hein.
C'était conseiller de Paro, donc.
Oui, il était conseiller de Paro, même s'il a fui, etc. Il a quand même une mentalité d'Égyptien. T'as tué un Égyptien ? Tu mérites la mort. Et il ne le tue pas avec ses mains, mais il le jette dans un puits, sans nourriture. Et donc, il est jeté. Donc c'est intéressant parce que ça fait une parenté entre Yosef et Moshe Rabbeinu. Il y a beaucoup de choses qui sont très proches, l'histoire des femmes et tout. C'est... Donc à ce moment-là, c'est Tzipora qui s'occupe de lui, qui le nourrit. Finalement, tout à coup, il fait surface. Et bon, il a compris qu'il a dû se tromper ou je ne sais pas quoi. Et il lui a donné Tzipora. Mais seulement avec des conditions, parce que vous savez bien que Moshe Rabbeinu a accepté la condition que son premier fils ne serait pas élevé dans les valeurs de Moshe, mais on le laisserait choisir. Parce que Yitro pensait que c'est sûr que si on est sincère et qu'on fait, on fait comme lui, c'est-à-dire une vraie recherche, on arrive obligatoirement à la Torah. Sauf que le fils de Moshe, lui, il n'est pas arrivé, il est resté coincé. Il est devenu un prêtre, il est resté coincé comme prêtre païen.
Eliezer ?
Oui. Bon, ça c'est long, je crois qu'on raconte tout ça. Ah oui. Oui, alors, en fait... On voit ici que ça fonctionne à l'envers du monde. C'est, le récit n'est pas le récit de quelque chose qui a eu lieu, mais les choses ont eu lieu pour qu'on puisse les raconter. Et donc, ça c'est très clair, nous sommes le peuple du récit. On est le peuple qui vit, nous vivons sur ce récit. Yetziat Mitzrayim, c'est absolument fondamental. Et le récit de la sortie d'Égypte, c'est le récit, comme on l'avait déjà dit plusieurs fois, en réalité, sur la sortie d'Égypte, on n'en sait rien du tout. D'accord ? Il n'y a aucune information sur la sortie d'Égypte elle-même. Dans la Haggadah, on ne raconte pas la sortie d'Égypte, on raconte ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a eu après. Mais il n'y a pas de zoom sur la sortie elle-même. On ne sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est Lo Alidei Malach, Shliach, Saraf, etc. Et là, Kadosh Baruch Hu Bechol Batzmo, c'est Hachem. C'est Hachem qui a fait les choses, ça veut dire tu ne comprendras jamais rien. Et l'idée, c'est que si on regarde, Chazal disent que de même que la sortie d'Égypte, c'est un modèle, en petit, le modèle de la Géoula finale. D'accord ? Le Nissan Nigaloum, etc. Ça sera aussi en Nissan, etc.
Un cinquième.
Et alors, le. Pardon ?
Un cinquième aussi.
Ça, je ne sais pas. Ouais, c'est possible, effectivement. C'est possible. Mais ce que je pensais, c'est avec ce qu'on a vu dans les. dans le Shiurim, là, sur les Sabbat Beatuna, que les temps messianiques, c'est pas du tout homogène à notre temps à nous. On ne sait pas que on va avoir en beaucoup plus grand ce qu'on a déjà ici. Ce sera de l'abondance 10 fois plus grand, de la pauvreté éradiquée, ou je ne sais pas, toutes ces choses-là. C'est, on voit dans la Gemara, là-bas, le Pshat, en tout cas d'après le Gaon de Vilna, ça veut dire que cette période-là, elle n'a rien à voir avec la nôtre. C'est un autre monde. Comment puis c'est basé sur cette histoire de... Vous connaissez ça ? Je t'ai raconté cette histoire. Dans la Gemara, dans Prorot, il y a une fameuse discussion. Dans Prorot, on parle des animaux. Et il y a là-bas la discussion. Ben oui, il y a une partie que vous connaissez, puisque c'est vous qui m'avez dit. Il y a une discussion pour savoir combien de temps dure la gestation du serpent. Alors, comme Ezra me fait remarquer, c'est la question à la vertu, on passe pas de sens, parce que serpent, c'est pas un terme précis. Et dans les serpents, il y en a tout, il y a des mammifères, il y a tout ce qu'on veut. Donc, parler de la gestation du serpent, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de gestation du tout. Mais, alors du coup, de quel serpent est-ce qu'on peut bien parler si on veut parler d'un serpent et que ce n'est pas les serpents qu'on a dans les eaux, ni les boa constrictors, ni les vipères, ni les couleuvres? Eh bien, c'est le Nahash. Et là-bas, on explique, le Nahash, c'est la même gématria que Mashiach. Donc, la discussion entre les Sabbat Beatuna, oui, tu peux calculer, c'est...
Non, c'est parce qu'avec le Yud, même...
Et la discussion entre les sages d'Athènes et Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est que ça se passe devant un gouverneur romain qui dit, mais il demande à Rabbi Yoshua ben Hanania, ça dure combien de temps d'après vous? Il dit 7 ans. Alors il lui dit, mais les Grecs, ils ont fait des expériences et ils ont trouvé 3 ans. C'est des gens sérieux, c'est des scientifiques, ils ont fait des vraies expériences, parce qu'ils sont intelligents et tout. Alors, Yoshua dit, nous, on est plus intelligents qu'eux. Il recule devant rien. Il dit, nous, on est plus intelligents. Alors, l'explication standard, c'est pourquoi les Grecs se sont trompés. Alors, Yoshua, il dit, ils ont pris une femelle, elle était déjà pleine. Elle avait déjà 4 ans, depuis 4 ans elle était déjà pleine, donc ils ont calculé 3 ans, ça fait 7 ans. Pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'il y a un phénomène que dans la nature, a priori, les femelles, quand elles sont pleines, elles n'acceptent pas les mâles. Mais, dit Razal, il y a une exception, il y a 2 exceptions, c'est les serpents, le Nahash et les hommes. Une femme enceinte, elle accepte d'avoir des rapports avec son mari. Si on était dans le monde animal, une femme enceinte, elle n'a pas de rapport avec son mari. Une femelle, elle n'accepte pas de mâle quand elle est pleine. Donc eux, ils ont pas su que c'était vrai pour le Nahash, je sais pas, pour le serpent en question, et donc ils se sont trompés. Et bon, alors la discussion, c'est 3 ans ou 7 ans, et pour, je vous la fais très courte, parce que c'est très 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 long. Et c'est quoi la différence si c'est 3 ans ou 7 ans pour le Mashiach? C'est que pour nous, 7 ans, c'est un cycle complet. Si on dit que la gestation dure 7 ans, ça veut dire que la naissance, elle est en dehors du cycle. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas du tout une conséquence, elle n'a rien à voir avec ce qui s'est passé durant la gestation. Dès qu'il naît, c'est un autre monde. Un monde complètement différent. Alors que, là-bas on dit que c'est les Grecs, mais évidemment c'est les chrétiens aussi. D'accord? Eux ils disent 3 ans. Leur Messie, d'après eux, il est venu, mais il n'a rien changé. Donc, la venue du Messie pour eux, c'est un Messie qui ne change pas vraiment les choses. Parce qu'il est homogène, il est dans les 7 ans. Il est à 3 ans, donc il est dans les 7 ans. Donc, ce que je veux garder là pour ce soir, c'est uniquement le fait que les temps messianiques, donc la Geoula finale, elle nous fait entrer dans un monde qui est radicalement différent. Alors, bien sûr que la sortie d'Égypte, elle nous a fait sortir et entrer dans un monde qui est radicalement différent, puisqu'on était esclaves et on ne l'est plus. Mais c'est beaucoup plus que ça, puisqu'on va recevoir la Torah, puis la sortie d'Égypte, elle se clôt. On va parler comme ça, avec Matan Torah. On n'est pas sorti pour ne plus être esclave, c'est tout. On est sorti pour recevoir la Torah. Et donc, du coup, ça veut dire que la sortie d'Égypte, c'est vraiment entrer dans un monde qui est radicalement différent. Et par conséquent, c'est ça que ça veut dire probablement. On dit que c'est allié d'Hachem, d'accord, c'est Hachem Birkodo Batsmo, ça veut dire qu'on est sorti, il faut presque vous imaginer, on est allé dans un autre monde. Et on a pu sortir en une nuit, parce que ça n'a pas de sens de dire que c'était des millions de personnes, d'après les chiffres de la Torah, qui sont sortis en une nuit, avec armes et bagages. C'est impossible. Même l'armée américaine, il ne peut pas faire sortir c'est tant de gens en une nuit. Par conséquent, ça veut dire qu'on a changé de monde. Donc Hachem nous a fait... On est allé dans un autre monde, on est sorti, puis après on est revenu dans ce monde. Bon, mais du coup, c'est un peu comme les voyages à la vitesse de la lumière, etc., où on revient et on retrouve le temps. Donc, c'est comme si on était sorti du temps, puisque le temps c'est une création, dit le Gaon de Vilna. Donc, on est sorti du temps et on est allé dans un autre temps, puis ensuite on est revenu dans le temps, d'une certaine manière, dans le même temps. Donc c'est ça qu'on pourrait dire. L'important, et c'est pour ça qu'on ne nous dit rien de tout ça. Parce qu'on ne peut rien nous dire, dans notre monde, on ne peut rien comprendre. C'est pour ça qu'on dit, c'est complètement débile d'essayer ni de décrire, de savoir quand ce sera, etc. On ne peut rien dire sur les temps messianiques parce que ce n'est pas de notre monde, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout... c'est tout. Tu ne peux rien dire. Même, il n'y a aucune... On sait aujourd'hui qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut rien dire. On sait bien en physique qu'on ne peut rien dire dans l'infiniment petit ou à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. On ne peut rien dire si on veut essayer d'appliquer les formules de la mécanique ordinaire. Ça veut dire que, à la limite, même simplement pour envoyer les fusées qu'on a envoyées, les satellites qu'on a envoyés, si on avait utilisé Newton, on serait jamais arrivé sur la Lune. D'accord ? Si on n'utilise pas les corrections d'Einstein, on n'est pas sur la Lune. On passe à côté. Donc on voit très bien qu'il y a des situations dans lesquelles on sort du monde, en fait. On peut... Voilà, c'est... On peut même dire que ce monde-ci est une approximation de l'autre monde, mais c'est une approximation avec ce qui se passe. Ben, c'est la même chose que si vous dites que j'utilise S'il utilise Newton, c'est faux, mais c'est une bonne approximation si on est loin de la vitesse de la lumière. Et bien sûr, c'est faux. Donc Hachem dit, voilà, je vais encore envoyer des makotes, et pour ma démonstration à l'Égypte, et pour que vous racontiez. L'idée, c'est, on n'est pas du tout en train de raconter quelque chose qui s'est passé, et on raconte. Non, la chose n'a eu lieu que pour que nous le racontions. Donc l'essentiel, c'est le récit. Si vous voulez, si, je pourrais dire la chose comme ça. Supposez qu'on arrive à faire une hallucination collective du clan Israël. On leur fait croire qu'ils sont sortis d'Égypte. Donc ils vont faire le récit de ce qu'on leur fait croire. Ça irait aussi bien. Alors pourquoi il a fallu que ça soit vrai? Parce que Hachem est Emet, et parce qu'on ne veut pas que les choses soient fausses. Mais du point de vue du récit, on aurait très bien pu se contenter d'une hallucination collective.
D'ailleurs, la seule chose qu'on peut dire sur la sortie d'Égypte en elle-même, c'est Hachem nous a fait sortir d'Égypte.
On ne peut rien dire d'autre. Fini. Ouais.
On ne peut rien. Il n'y a rien.
Tu racontes avant, tu racontes après.
Et Hachem nous a fait sortir d'Égypte.
Sur le moment, tout ce qu'on dit, c'est l'Oalédé, celui-là, celui-là. Ça veut dire, tu peux ramener ça à aucun phénomène de libération d'esclaves qu'on connaisse. C'est pas dit un changement de dynastie, ni un tsunami, ni un tremblement de terre, ni à décolonisation, ni tout ce que tu peux imaginer, et y compris ce que tu peux pas imaginer. D'accord? Parce qu'ils ont dit ça la même chose, alors qu'il n'y avait pas encore décolonisation. Mais la décolonisation était aussi incluse dans c'est pas la décolonisation. D'accord? Il y a 200 ans, on ne parlait pas de décolonisation. Voilà. Donc tu vas aller dire ça à Paro. Donc Moshe et Aaron vont chez Paro et ils lui disent Ko amar Hashem Eloke Ivrim. Donc nous te parlons au nom du Dieu des Hébreux. Ad matai me anta leanot mipanai. Shlachami viavduni. Jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser en quelque sorte de t'écraser devant moi. Parce que c'est, en fait, c'est ce qu'il lui est demandé. Bon, parce que dire à quelqu'un tu vas laisser partir une grande partie de ta population, ça veut dire écrase-toi. Qui est-ce qui pourrait le lui imposer, si ce n'est un roi qui l'aurait vaincu complètement Et cette fois-ci, maintenant, il remet « Imma enata » « Si tu refuses de renvoyer mon peuple, etc., demain je t'amène les sauterelles. » Demain je t'amène les sauterelles, les criquets, et on sait aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de payer, enfin, de vivre ça, il paraît. Au Soudan, c'est, je ne sais pas où.
Oui, c'est ça. Soudan. Le nuage est grand comme le Luxembourg.
Un nuage de criquets, grand comme Luxembourg, tombe sur là où il tombe, il bouffe tout, il reste rien. Mais on peut rien faire.
Il est en train de se déplacer, donc il continue comme ça. Et ils ont peur que d'ici l'été,
il se multiplie encore.
Il se soit encore agrandi.
Et là, c'est ce qu'il dit. Vechisaret ena aretz velo yochal. L'irot et taaret, ve'achalet yeter apleta nisheret lachem milabarat. Tout ce que la grêle n'avait pas complètement haché menu, ils vont le manger. Ve'achalet kol la'et satsomeach lachem minasade. Ils vont tout bouffer. Donc il y en aura partout, dans tes maisons, dans les maisons de tes serviteurs, dans toutes les maisons d'Égypte. Des choses que jamais. Ni tes ancêtres, ni tes ancêtres, ni les ancêtres des ancêtres. Depuis le moment où il y a des Égyptiens sur cette terre, jusqu'à aujourd'hui, voilà. Et Moshe s'est détourné de lui, il est parti. Voilà, je t'ai averti. Alors, de nouveau, on, ça on l'avait déjà vu avant, quand Hachem a envoyé la vermine, il se trouve que dans les règles de la magie, pour faire de la magie, il faut un certain volume. Et les poux, la vermine en question, c'est trop petit. Alors les magiciens ont dit à Paro, c'est pas de la, ce que fait Moshe, ce que font Moshe et Aaron là, c'est pas de la magie, parce que c'est nous les spécialistes de la magie. Si on te dit, on peut pas. Donc c'est autre chose. Donc c'est quelque chose qui est plus fort que nous. Donc écrase-toi, cède, parce que on n'y arrive pas. C'est, tu vois bien, ils sont plus forts, c'est plus fort que toi, plus fort que nous, donc cède. Donc eux, ils sont pour céder. Déjà les magiciens, ça veut dire les je pense que c'est la haute société égyptienne. Et mais lui, il ne cède pas. Bon, c'est les conseils.
C'est le doigt de
l'Hachem.
Ouais, eux, ils lui ont dit, c'est le doigt de l'Hachem. Bon, le doigt d'Elohim. Ouais, le doigt d'Elohim. Donc c'est, faut que tu, c'est le doigt de Dieu, donc écrase-toi. Il ne s'est pas écrasé, il a continué. Et là, la même chose. Ici, c'est marqué, Yomru avde paro elav. C'est maintenant les serviteurs de paro, c'est la cour de paro qui lui dit, Admatai yezel am le mokesh. Jusqu'à quand? D'accord? Jusqu'à quand on va devoir souffrir de tout ça? Shalach et Anashim, Yavdu et Hashem Elokeem, Aterem Teda, qui Yavda Mitzrayim, t'as pas encore compris que l'Égypte est perdue? Alors, on a rappelé Moshe et Aaron, et Paro leur a dit, allez-y, servez Hachem, votre Dieu, qui va y aller? Alors Moshe lui a dit, on va y aller avec les jeunes, avec les vieux, avec nos filles, avec nos fils, nos filles, avec nos troupeaux, de gros bétail, de petits bétail. Parce que c'est une fête pour Hachem, pour nous. Et Paro, il dit, bon, ok, alors là il leur donne une bracha, quoi. Yéchen Hachem imachem, qu'Hachem soit avec vous. Je vais vous laisser partir, vous avec vos enfants, mais regardez vraiment, regardez bien la planète rouge en fait. Ra'a neged penechem. Il y a la planète rouge qui est en face de vous. Ça veut dire c'est la mort. Astrologiquement, c'est la mort. Et par conséquent, ne faites pas ça. N'allez, moi je suis d'accord, je vous envoie, mais c'est pas bon pour vous. Alors que seuls les hommes y aillent. Servez Hachem puisque vous voulez faire ça. C'est tout. Et il les a chassés. Il a chassé Moshe et Aaron. Ce type d'argument là, qui ra'a neged pnechem, on connaît ça, oui. En fait, c'est le même argument que Nimrod a Abraham. Quand Abraham s'est tenu devant Nimrod, Nimrod lui a dit, mais l'astrologie montre que tu n'auras pas d'enfant, donc c'est du blablabla ce que tu racontes. Et ce qui est pire, c'est qu'Hachem a dit à Abraham, qui s'appelle Abraham à ce moment-là seulement, Hachem dit, c'est vrai, Abraham est non molid. Tu n'auras pas d'enfant. Mais, c'est mes stagnilut shelcha. Et tu peux sortir de ton déterminisme astral. Par la Torah. Attends, lui, pas la Torah, mais tu peux sortir. Et ça va être la Mila, je vais changer ton nom, il aura une autre gematria, etc. Quelque part, tu peux devenir quelqu'un d'autre. qui lui pourra avoir des enfants. Pas des enfants, enfin, oui, des enfants. Mais bon, finalement, comme descendant d'Abraham, il n'y en aura qu'un seul, Yitzhak. Et Yitzhak, lui aussi, il n'aura qu'un seul enfant, que Yaakov. Donc ça donne un qui donne un qui donne un. Seulement après, ça se multiplie par 12. Donc, il leur avait dit, astrologiquement, vous n'avez aucune chance, tu n'as aucune chance. Et ici, c'est ce que dit Paro aussi. Mais le thème astral des Bnei Israël, c'est quoi? C'est la planète rouge de nouveau. Vous avez la mort devant vous. Et probablement que ce qu'ils disent est vrai. Ça veut dire que l'astrologie, elle... C'est une discussion pour savoir s'il y a du vrai dans la vraie astrologie. Je ne sais pas. Il y a une discussion. Le Rambam, il a écrit une lettre pour dire que c'était nul. Une lettre sur l'astrologie du Rambam, que l'on conteste. Mais le Gaon, dans Shulchan Aruch, il dit que le Rambam, il ne connaît pas.
On a une preuve d'Abraham, de ce que Hachem dit à Abraham, que c'est vrai. Si on parle de la vraie astrologie.
Peut-être qu'ils sont tombés au hasard. Hachem lui dit, c'est vrai, mais c'est par hasard qu'ils ont trouvé. Peut-être qu'Hachem les a inspirés pour qu'ils trouvent, mais ce n'est pas que l'astrologie... Elle, Rambam, il se débrouille avec ce Midrash aussi. Il y a plein de problèmes pour le Rambam. Mais là, c'est la même chose. Là aussi, vous n'avez aucune chance. Effectivement, ce qui va se passer, c'est que... Où est-ce qu'on voit que Abraham, lui, il s'est complètement changé, on peut dire, il s'est quasiment converti. Il a fait la Mila. Et ensuite, il a changé de nom. Les Bnei Israël, en réalité, ils vont aussi se convertir. Parce qu'au Sinaï, tout le monde s'est converti. Bon, ça veut dire que tous les gens qui sont arrivés au Sinaï, ils ont commencé par se convertir.
Ça signifie quoi à cette époque, se convertir?
Ça voulait dire ils se sont trempés, ils ont fait la Mila. Ben, Jéra Vinu l'a fait faire la Mila avant la sortie de l'Égypte, mais là, ils ont dû se tremper. Les hommes et les femmes se sont trempés. Et le Rambam, il apporte dans la Halakha, il dit que tout le monde s'est trempé à ce moment-là, et que le processus de Guérout qu'on pratique aujourd'hui, c'est la même chose que ce que les Bnei Israël ont fait. On ne fait que refaire la conversion version Sinaï. On l'a fait au niveau de chacun, des personnes qui veulent se convertir.
Alors pourquoi il y a eu besoin de cette conversion? Puisque Abraham lui-même avait fait le travail de se convertir.
Mais en vérité...
Donc, ses descendants, ils sont déjà convertis.
Le problème, c'est que c'est un autre monde, puisque Abraham, lui, il n'a pas reçu la Torah. Et le Rambam lui-même, il dit qu'en Égypte, on a quasiment tout oublié de l'enseignement d'Abraham. Lui, il dit que les Levim, ils se rappelaient un peu quelque chose, c'est tout. On a tout oublié. Kimat-kat, c'est le Rambam qui dit comme ça. Donc, si tu veux, c'est une naissance. Complète. Donc là aussi, on a l'impression que la condition pour pouvoir survivre, etc., c'était de se convertir, c'était de devenir autre. On aurait pu imaginer qu'il suffise de faire tchouva. Alors, il dit que quand on fait tchouva aussi, on devient un autre. Là, ils ont dû faire plus que ça, c'est-à-dire faire une procédure de conversion. Pour pouvoir vivre, en fait. Le paro, il leur dit, vous n'avez aucune chance. C'est vrai. Il faut sortir de ce monde. Ça veut dire toujours la même histoire. Tu veux réussir, tu veux ne pas mourir. Le peuple juif, il est inhomogène au monde. C'est pour ça que les historiens, ils ne savent pas où nous mettre. Il n'y a aucun historien qui sait où on va mettre les juifs. Toynbee disait, les juifs, ça n'existe pas. J'ai classifié tous les peuples.
Victor Hugo, vous dites?
Il s'appelle Arnold Toynbee, c'était un des grands historiens anglais, le siècle dernier. Un des tout grands. Mais personne ne sait. C'est quoi les Juifs, en fait? on n'est pas comme tout le monde, en fait. On n'est pas un peuple comme les autres peuples. Mais il y a plein de tentatives, de la part des Juifs aussi, d'essayer de devenir un peuple comme les autres. Et ça, quand on regarde ce qui s'est passé dans le Sinaï, ce qui s'est passé dans le désert, c'est aussi toutes sortes de réflexions, mais on veut être comme tout le monde. Donc, Paro a dit, je suis d'accord de vous laisser partir, mais en vérité, il faut que les hommes y aillent seuls parce que c'est trop dangereux. Devenir un sadique, il a un souci pour les Juifs. Hachem dit à Moshe, ok, envoyez les sauterelles. Donc on nous décrit effectivement les sauterelles. Et à ce moment-là, dans le verset Tetzain, 16, oui, marqué Vaimaher Paro likro le Moshe ou l'Aaron. Là, du coup, Paro s'est dépêché de rappeler Moshe et Aaron. Et il dit, alors c'est intéressant, le bonhomme, il dit maintenant Khatati, Hashem, Elokechem, Belachem. J'ai fauté par rapport à Hachem votre Dieu et par rapport à vous. Mais maintenant, portez ma faute en quelque sorte. Et priez Hachem, votre Dieu, qu'il l'enlève, qu'il m'enlève cette mort-là. Il enlève ses sauterelles, criquets, etc. Alors, effectivement, mon cher Abénou, il est... Vayetse Meim Paro. Il est sorti de devant Paro. Certains disent qu'il est sorti de la ville, en fait. Parce que Moshe Rabbeinu ne voulait pas prier en plein milieu des idoles. Donc il sort. Et il prie Hachem. Et voilà. Et Hachem envoie un phénomène naturel. Enfin, il envoie justement un vent. Un vent du côté qui vient de la mer. Très très puissant, et qui va emporter les sauterelles. Du côté, en fait, c'est un vent de la mer plutôt, c'est un vent qui ramène vers la mer, et il va noyer ces sauterelles. Et là, il n'y a plus aucune sauterelle. Mais bon, ça vient tout de suite. Vaïchazek Hashem et lev paro. Et maintenant, donc, Paro, il a déjà dit, Khatati, j'ai fauté, priez pour moi, donc il est presque devenu un... Il a reconnu Hachem, quoi. Mais Hachem lui donne la possibilité de résister, et il ne renvoie pas les Bnei Israël. Donc on voit très clairement ici, il dit, Khatati, l'Hachem... Elokechem velachem, etc. Tirou ba'adi, priez pour moi, etc. Mais Hachem ne le laisse pas.
Il a l'air sincère pourtant.
Sur le moment, il est sûrement sincère. Il a très envie que ça s'arrête. Il dit rien d'ailleurs. Il dit prier, et il dit pas, c'est, semble-t-il, il va sans dire que je ferai ce que vous avez demandé, mais il ne le dit pas. Il dit j'ai fauté, mais il ne dit pas. Mais c'est un raccourci, la Torah n'a pas voulu dire encore une fois que alors, la troisième, quand il y a la troisième plaie, elle vient sans avertissement. C'est chaque fois, deux fois avec avertissement et une fois sans. Maintenant, il y a sans avertissement, il lui balance trop cher. Les ténèbres. Les ténèbres, c'est pas simplement on n'y voyait pas clair, c'est épais. C'est une espèce de paralysie. Ça fait un peu comme ce qu'on... Moi, j'étais pas, mais si vous avez été à Pompéi ou si vous avez des photos, on voit que les gens, ils ont été figés dans le mouvement dans lequel ils étaient. La lave est arrivée, elle les a figés tels quels. Celui qui avait levé le bras, il ne pouvait plus baisser le bras. Et donc il y a ces crochères partout, et les gens ne se voient pas, ça dure 3 jours. Mais à Goshen, chez les Bnei Israël, il y a de la lumière, on y voit clair. Du coup, il appelle Moshe. Bon, ici, il appelle seulement Moshe. C'est étonnant parce que Moshe, il ne parle pas avec Paro.
Oui, c'est vrai.
On avait vu, Moshe, il ne peut pas parler avec Paro. C'est toujours Aaron qui doit parler. Parce que, on avait expliqué, n'est-ce pas, je crois.
Oui.
Moshe, c'est comme si il parlait obligatoirement à un niveau tel que Paro ne peut pas l'entendre. C'est même, on pourrait dire, il n'a pas la même... C'est une longueur d'onde que Paro n'entend pas. Parce que, probablement, que puisque Moshe Rabbeinu reçoit la parole d'Hachem et qu'il va devoir la transmettre, quelque part, il n'a plus sa propre parole, ça se passe à un autre niveau, mais Aaron, lui, il peut l'entendre. Donc lui, il parle à Aaron, Aaron entend, mais Paro, il ne comprend rien. Donc là, il le rappelle. Et là, du coup, il lui dit. Il dit, allez, servez votre Dieu avec vos troupeaux, vos enfants et tout. Et Moshe lui dit, mais gamma kiten biyadenu, zbachim veolot. Toi aussi, tu vas nous donner des animaux qu'on pourra approcher comme korbanot. Zvachim ve olot. Alors, olot. Parce que les goïms, on accepte des goïms seulement ola. On accepte seulement des korbanot qui sont entièrement consumés.
Et là, zvachim.
Zvachim, ça veut dire shrita. Zevar, c'est shrita. Des choses, des korbanot, olot. Alors maintenant, est-ce que comme il va leur donner, c'est pas qu'eux ils vont apporter, mais il va leur donner des bêtes, ces bêtes on va les utiliser. Alors, à la limite, c'est un problème, pourquoi ils disent Zbachim ve Olot? Il aurait dû dire Zbachim, ou bien, si c'est que des Olot, il aurait dit Zolot. Mais tu nous donneras Zbachim ve Olot. Quoi Zbachim ve Olot? Parce que je n'ai rien dit. Voilà, donc Paro ici, il appelle Moshe, il lui dit allez-y. Alors, bon, Moshe dit voilà, on va partir à tous. Pardon?
Il ne veut pas qu'il emmène le bétail.
Ouais. Mais, donc, Hachem lui donne la possibilité de résister, et il n'accepte pas, il ne veut pas les laisser partir. Et là, tout à coup, Paro, il dit à Moshe, il dit, « Lech me'alai, va-t'en de moi, Ishamer lecha, prends bien garde à toi, al tosef reot panai. Ne t'avise pas de venir me revoir, ki beyom reotra panai tamut. Le jour où tu verras mon visage, tu mourras. Alors Moshe lui a dit, ken dibarta. Tu l'as dit. Lo sifot de reot panai. je ne viendrai plus voir ton visage. Là-dessus, il y a toute une discussion. Si, bon, Moshe n'est plus jamais revenu. Mais après, à Makat Bechorot, c'est Paro qui va chercher Moshe. Et certains disent que même là, il a pas, c'est pas Paro qui a vu Moshe, c'est les serviteurs. Effectivement, certains disent que Moshe n'a plus jamais vu Paro. D'autres disent qu'il l'a revu, mais c'est Paro qui est venu chez lui et pas lui qui est allé chez Paro. C'est intéressant la chutzpah de Paro, qu'il est complètement, il est à terre et il le menace. Le Midrash dit que quand Moshe est arrivé la première fois au palais, qu'il a commencé à dire des choses sur Paro, c'est marqué que Paro a donné des ordres pour qu'on le tue. Mais Hachem a protégé Moshe, les sabres s'y sont cassés sur la nuque de Moshe. Donc qu'est-ce qu'il croit là, qu'il va le tuer? Si tu viens, je te tue. Il voit bien que Moshe fait ce qu'il veut. Et donc Hachem va dire à Moshe sur place pour qu'il l'avertisse tout de suite. Puis c'est une nouvelle plaie qui doit être avertie. Et il lui dit, voilà, j'enverrai encore une plaie. Et là, voilà, ici, il y a quelque chose de très intéressant. Ensuite, il vous renverra, vous chassera même. Dans le verset Bet, dans le deuxième verset du chapitre Yudalef, Hachem dit à Moshe, « Daber na beozne ha'am, parle s'il te plaît aux oreilles du peuple, vishalu ish me'et re'u, vishah me'et re'uta, kle chesef ou kle zahav. » Que chaque homme empruntera auprès de son prochain et les femmes auprès de sa prochaine des ustensiles en argent et en or. Vaiten Hashem et Renaam ben Mitzrayim. Hashem a fait en sorte que les Égyptiens voyaient avec ils voyaient très positivement les Bnei Israël. Gamaïch Moshe, Gadol Meod Beretz Mitzrayim, et Moshe aussi, il était très grand en Égypte, Beine Avde Paro ou Beine Aam, aux yeux des serviteurs de Paro et aux yeux du peuple. Les Égyptiens, ils avaient bien compris que Moshe n'était pas leur ennemi, que ce qui leur arrivait ne venait pas du fait de Moshe, mais ne venait du fait de Paro. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il faut emprunter? Ça vous connaissez, c'est Hachem qui a dit à Moshe, pourquoi il lui demande s'il te plaît? D'abord, na, oui, s'il te plaît, parle-leur. Pourquoi il demande? Parce que Hachem dit, sinon les Bnei Israël, ils diront la partie de la prophétie que j'ai donnée à la promesse qui avait été faite à Abraham Avinu, dans laquelle je lui avais dit que ses enfants seraient esclaves en Égypte. Ça, Hachem, il l'a fait. Mais après, c'est marqué et qu'ils sortiront Birkouch Gadol avec un grand butin. Donc, ils n'ont rien, les Bnei Israël. Ils vont sortir avec rien du tout. Alors, ils vont critiquer Hachem. Ils vont dire, les tuiles, il nous les a envoyées. Mais quand il s'agissait des promesses pour nous donner quelque chose de bien, il a rien fait. Donc, il demande à Moshe de demander au Bnei Israël de bien vouloir emprunter. Alors ici, il y a pas mal de questions. D'abord, c'est à la fois surprenant et un peu gênant même. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem a dit, Hachem veut réaliser la promesse que les Bnei Israël auront un butin en empruntant des choses. Et si on emprunte, il faut les rendre. Pourquoi ça s'appelle du butin? Alors on sait très bien que les ministres l'ont emprunté, mais ils n'ont jamais rendu. Ça veut dire quoi? La promesse d'Hachem, elle s'est faite avec un... Il n'y a pas de quoi être tellement fier, non? La promesse d'Hachem, elle se réalise en mentant, en disant qu'on est dans l'emprunt, et alors qu'on est dans on ne va jamais vous rendre. Les Israël, en tout cas, Hachem, lui, il sait qu'ils ne rendront pas. Et les Bnei Israël, ils n'ont pas dit, mais quand ils sont partis, ils ont dit, mais on n'a pas rendu aux Égyptiens. Alors cette histoire-là, elle continue. C'est marqué dans la Gemara que quand Alexandre a conquis la moitié du monde qu'il a conquis, les Égyptiens, tout le monde est venu réclamer des choses chez Alexandre. Et les Égyptiens sont venus et ils ont dit à Alexandre qu'ils voulaient obtenir d'Alexandre que Alexandre leur donne Eretz Israël aux Égyptiens. Pourquoi ? Parce que les Juifs nous ont, les Hébreux nous ont emprunté de l'or et de l'argent. Ils ont fait la liste et donc ils ont chiffré. Et c'est un tel montant que les Bnei Israël ne peuvent pas rembourser. Donc nous, on saisit les terres d'Israël. Et donc ils vont chez Alexandre, pour que, puis c'est Alexandre qui a le pouvoir, saisit pour nous les terres d'Israël et donne-les-nous. En paiement de ce que les Bnei Israël ont emprunté, justement, et qu'ils n'ont pas rendu. Alors, Alexandre a convoqué les sages d'Israël, qui ont demandé un délai de 3 jours, et la Gemara rapporte qu'il y a un jeune, dans les Rabbanim, un jeune, qui a dit la chose suivante. Il a dit, écoutez, laissez-moi aller négocier. Si je réussis, ben c'est bien. Et si je ne réussis pas, vous pourrez dire, bon, mais c'est un petit jeune qui s'est, ben, il s'est proclamé négociateur, mais il n'avait aucun pouvoir de négocier en notre nom, et puis vous, à ce moment-là, vous ferez ce que vous voudrez. Alors, il est allé et il a négocié. Comment il a négocié ? Il m'a dit, il a allé, il a demandé aux Égyptiens, sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire qu'on vous, donne, on vous doit tant et tant ? Ils disent, on se base sur la Torah. Écrit dans la Torah, ici, que vous avez emprunté. Ok, là, il dit, ok, mais dans ce cas-là, moi aussi je vais me baser sur la Torah. Il leur fait une concession. Et il leur dit, voilà, écoutez, on a travaillé en Égypte, on était 400 ans en Égypte, on était 600 000, etc. On fait une multiplication, je ne sais pas combien ils étaient payés de l'heure, mais en tout cas, il arrive à un montant qui est largement supérieur à celui que les Égyptiens réclament. Et donc ils disent, ok, on vous doit ça, mais vous nous devez bien plus. Les Égyptiens sont partis, ils ont laissé partir. Bah, ils n'avaient pas d'argument. Évidemment, vous savez qu'il y avait des arguments, parce qu'on n'a jamais été esclave pendant 400 ans, on était 210 ans, et on n'a jamais été 600 000 tout le temps. C'était l'explosion démographique. Mais bon, puisqu'ils se tiennent à la lettre de la Torah, bon, même ça, bon, d'accord, il faut un peu de bonne volonté hein, pour accepter que c'est comme ça que la promesse d'Hachem se réalise. Il y a une question qui est encore plus... Enfin bon, ça c'est classique. Mais il y a une question que... Je vais juste vous dire encore ça. Le Gaon de Vilna dit que jamais dans la Torah, le Réé ou le prochain, c'est un goy. Donc c'est pas possible de dire qu'ils ont emprunté au goyim. Comment c'est ça ? Il dit, c'est pas possible. Ils n'ont pas emprunté au goyim. Ça, c'est ce que dit le Gaon. C'est tout. Avec ça, il faut se débrouiller. Oui. Alors, je propose une solution. Je propose la chose suivante. Les Bnei Israël étaient des esclaves. C'était des esclaves qui en étaient à chercher leur souffle. Je crois qu'ils ne peuvent pas écouter Moshe, mais quand c'est Rouach, ils n'ont plus le souffle. Quand quelqu'un il en est à chercher son souffle, il pense qu'à lui. Il peut pas, il n'y a pas l'autre, il n'existe pas. Simone Veil, elle raconte que dans les camps, les gens ils volaient les couvertures. Il y avait une couverture chez quelqu'un, toi tu n'en avais pas, si tu pouvais, tu volais la couverture. À l'autre, il va crever de froid et éventuellement il va crever tout court. C'était comme ça. Les gens quand ils sont réduits à cette condition-là, ils pensent qu'à eux. Ça veut dire que l'Ebné Israël, en tant qu'esclaves, ils ne formaient pas du tout. Non seulement ils ne sont pas un peuple, parce qu'ils sont seulement un peuple au pied du Sinaï, mais il n'y a absolument aucune relation entre eux. Chacun est pour soi, en train d'essayer de trouver son souffle. Alors les femmes sont. Les femmes des hommes s'occupent des hommes, mais disons toutes les familles, ou ça, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors ce qu'Hachem a demandé, c'est commencer. Hachem voulait qu'il se crée des relations entre les blés Israël. Comment on crée artificiellement des relations? On emprunte et on vend et on emprunte. Donc ça crée des relations. Donc ce qui est dit dans le texte, c'est qu'il faut que les Juifs empruntent auprès des autres Juifs. Mais ben avec ça, on ne va pas faire du butin.
Ça ne résout pas le problème.
Mais, alors, sauf que, à partir du moment où les Égyptiens ont vu que la société a l'air, il a l'air de se créer une société agréable, dans laquelle il y a des relations agréables, ils ont dit, ben nous aussi on veut en être. Et donc eux aussi ils ont prêté, et eux aussi, et ensuite eux, effectivement, on ne leur a pas rendu, ça c'est l'autre question. C'est comme ça que je m'explique le Gaon de Vilna, et je trouve que si c'est comme ça, c'est assez génial, parce que c'est vraiment fondamental de comprendre qu'il faut d'abord des relations. Aujourd'hui, d'ailleurs, le monde entier il est construit sur les relations. On ne parle que de relations, on ne parle plus d'objets, même en science. Donc, ici, en tout cas, ce qui se passait, il fallait fabriquer des relations pour que les Bnei Israël aient des liens les uns avec les autres. Ça ne fait pas encore un peuple, mais c'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas de lien entre les gens, ben, ils ne deviendront jamais un peuple. Voilà. Bonsoir.
Bonsoir.
Je croyais.